Bonjour, ici Marie-Claudel et vous écoutez la Top Radio de Québec, Chiz 94.3. Il est 4 heures.
Bon mardi tout le monde, on est le 14 décembre. Vous écoutez la radio Chiz 94.3. Vous écoutez l'émission Chérie, j'arrive. Mon nom est Félix Duchesne et on est ensemble jusqu'à 17h30. On va commencer ça avec la première demi-heure où je vous donne des nouvelles. Il y a entre autres Igloo Fest qui s'amène à Québec en 2022. Il y a le Festif qui ont une façon de faire des tournées dans des écoles. Je vous parle de ça durant justement la première demi-heure de cette émission. À 16h30, il va y avoir Nathan Murray qui va venir faire sa chronique cinémaniaque. Et oui, lui qui habituellement le mercredi, ben vient aujourd'hui en ce mardi. Et lui qui est le jeudi habituellement, Alex Tremblay-Lamarche, va être là à 17h pour me parler de trois ouvrages qui peuvent être des bons cadeaux pour Noël. Donc voilà, ce qui fait notre menu pour l'émission d'aujourd'hui, l'émission qui commence maintenant. Et on va y aller directement en musique avec nul autre que Kate Ranada. Et oui, il a été annoncé aujourd'hui, c'est une nouvelle qui est sortie plus tôt aujourd'hui, que Igloo Fest, ce festival qu'on a l'habitude de connaître pour finalement la musique électronique à Montréal, quand c'est le temps de faire le party, de sortir dehors, de sortir sa soute de Noël, comme on dit, sa soute des fêtes, eh bien, avec Igloo Fest, c'est la façon de fêter, justement. Donc, on va y aller avec Kietranada. Je vous explique tout ça. Je vous mets tout ça plus au clair après l'écoute de Intimidated. C'est un featuring avec Her. C'est sur son dernier single qui est sorti à Kietranada. We'll be right back. Et c'était donc Intimidated avec Her et évidemment Kate Ranada qui est sur le beat. Kate Ranada, ce producer qui est connu pour plusieurs succès à l'international et même des collaborations internationales, c'est ce que je voulais dire. Lui qui vient tout droit de Longueuil et qui est aussi fait partie de la famille avec Lou Phelps, lui qui est son plus jeune frère et que sa carrière rap. Mais là, on parle de Kate Ranada parce qu'il va être à Québec au mois de mars prochain. Je vous ai parlé de l'Igloo Fest en introduction. C'est un festival de musique qui a l'habitude de se passer en hiver et c'est pour les plus grands adeptes de musique électronique. Ça existe depuis maintenant 15 ans et Igloo Fest maintenant se dit on est prêt à venir dans la capitale nationale et Igloo Fest prendra d'assaut la ville de Québec les 16, 18 et 19 mars prochains à la place Jean Béliveau en plein cœur d'exposité. Ça, c'est où l'amphithéâtre dans le coin de Limoilou. Et justement, je vous ai fait écouter Kate Ranada parce qu'il sera là. Il y a aussi Zed's Dead, Above and Beyond comme tête d'affiche. Donc, une tête d'affiche par date et ce sera donc trois dates. Je rappelle que c'est du le 16, 18 et 19 mars 2022. Dès maintenant, il y a des passes qui donnent accès à tous les spectacles qui sont en quantité très limitée. On nous dit ça, c'est au coût de 84 $ ou si vous voulez y aller par journée, ça va être à partir de 30 $. Donc faites prévoyez votre horaire parce que le 16, 18 et 19 mars 2022, même si on est encore en hiver, eh bien il va y avoir un gros party dans la capitale nationale. On a une mise en scène, un accoutrement qui est inspiré évidemment de Igloo Fest Montréal, mais c'est ce décor glacial, cette scénographie architecturale et même la programmation qui puise parmi les meilleurs DJ locaux et internationaux. Ça, c'est inspiré de Igloo Fest Montréal et on a décidé évidemment de garder cette même recette-là, cette recette qui est gagnante parce que ça fonctionne depuis 15 ans à Montréal. On se dit à Québec, pourquoi pas les gens qui aiment la musique électronique, des gens qui aiment ça faire le party, c'est international et on aime ça au Québec, donc ils font un pari, ils se disent peut-être que dans le coin d'Expo Cité, dans le coin de Limoilou, peut-être que les gens vont vouloir sortir et j'espère que vous serez de la partie parce que ça va valoir la peine. Moi évidemment j'ai un petit penchant pour Kate Ranada, j'aime beaucoup la musique qu'il fait, mais je vais aussi m'intéresser évidemment à Zed's Dead et à Above and Beyond. Il y a des premières parties aussi qui sont proposées. Je vous parlais de la famille de Kate Ranada qui est une famille d'artistes. Donc Lou Phelps qui va être là aussi en DJ set pour ouvrir pour son grand frère. Il y a aussi celui qu'il ne faut pas confondre avec Lou Phelps, c'est Lou Fresh, lui qui est un DJ de Québec qui avait entre autres il a sorti son album cette année qui s'appelle Fresh Forever, une collaboration entre autres avec Eman et Ken Lo. Et bien là, lui aussi, il sera en DJ set pour ouvrir pour Kate Ranada. Ça, c'est le 16 mars. Il va y avoir Rossi et Death Pack pour réchauffer la foule pour Zed's Dead. Ça, c'est le 18 mars. Et il va y avoir Garden State et Sinka qui vont faire danser les Guerriers du Froid pour ensuite laisser la place au célèbre groupe trans Above and Beyond. Eux, ils sont à l'avant-garde de la musique électronique depuis deux décennies. Donc voilà. Et il faut le signer aussi que l'événement est réservé pour 10 ans et plus parce que quand il va faire froid, ce sera peut-être pas pour les petits bambins et je suppose aussi que ce sera très festif. On va pouvoir se réchauffer si vous voyez ce que je veux dire avec Igloo Fest à Québec. Ça va réchauffer la ville de Québec le 16, 18 et 19 mars prochain à la place Jean Béliveau. Ça, c'est une place qui a été inaugurée dernièrement, entre autres pour évidemment de rendre hommage à ce grand joueur de hockey du Canadien de Montréal, le fameux numéro 4. C'est une place, comme je l'ai dit en début de chronique, qui est en plein cœur d'Expo Cité. Donc, je vous invite à réserver, vous les avez passés. Je le répète pour une dernière fois, si vous voulez assister à tous les spectacles, dont le 16, 18, 19, ça va être pour 84 $. Et si vous voulez y aller par soirée, ça va être au coût de 30 $. Ça, c'est à partir du 16 décembre. Donc, tapez Igloo Fest Québec, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, voilà, vous me verrez sûrement à Kate Ranada parce que que je l'adore et ben quoi de mieux que d'aller danser dans le froid pour célébrer cet artiste qu'on adore. On adore aussi le duo des deux luxe avec Lighter Fluid, leur album qui était sorti. Ça, c'est l'an passé, c'était au top du palmarès. Si j'ai le temps durant cette émission-là, si j'ai le temps parce que je veux laisser de la place aussi à mes chroniqueurs, je vais vous parler de mes mentions. Il y a beaucoup de top 10, de top 15, de top 50 qui sortent là, dernièrement. Moi, je n'ai pas fait d'ordre. Je vais plus y aller avec des mentions. Je vais faire justement des petites mentions spéciales durant l'émission. Ben, il y en a une qui va au Deluxe et je vous parle même d'eux parce qu'ils font la tournée des écoles, imaginez-vous. C'est assez spécial. C'est un événement qui est organisé par le Festif. On va y aller en ce mardi 14 décembre. On va y aller en musique avec Lighter Fluid parce que, ben justement, le feu est pogné. Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Lighter Fluid, c'est des deux luxe et je voulais vous parler d'eux parce qu'ils sont en ce moment en train de faire une tournée des écoles. De quoi est-ce que je parle? C'est un événement qui est organisé par le Festif qui est de retour avec son volet éducatif et philanthropique pour 2022. Ben, ça commence déjà. On en avait parlé avec Marie Gold il y a quelques jours de ça pour entamer cet événement qui s'appelle le Festif à l'école. Ben, cette année, cette initiative prend encore une fois de l'expansion. Il y a 11 artistes qui se produiront dans 7 régions différentes du Québec. Il y a entre autres le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, Québec, la grande région de la Capitale-Nationale, Charlevoix, la Naudière. Il y a plein de régions du Québec dont les écoles vont se faire visiter par des artistes. Je rappelle aussi que cette initiative avait été créée en 2018. Et ça, c'était une seule école qui avait été visitée. Là, en ce moment, entre novembre 2021 et avril 2022, il va y avoir 38 écoles qui vont avoir le plaisir et la chance d'accueillir en classe la voix et l'énergie de 11 artistes. Et ces 11 artistes-là, ben c'est pas n'importe qui. Il y a Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Émile Bilodeau, Sarah Dufour, à la Claire Ensemble, Clan Friends, excusez-moi, Marie Gold, les Commandes de Bord, les Deluxe, Philippe Braque, Calté Motel. C'est une belle brochette d'artistes qui, ben, si vous ne les connaissez pas déjà, allez écouter leur musique, ça vaut la peine. Et même qu'il y a des jeunes enfants qui vont pouvoir avoir la chance de les recevoir dans leur école, parce que chaque artiste qui participe aussi, ben, justement, va offrir un spectacle, mais va aussi offrir des ateliers d'écriture, des ateliers. On avait parlé, entre autres, avec Marie Gold, vu qu'elle est vraiment dans le monde du rap, ben c'était plus par rapport aux rimes. Pour les Deluxe, soit ça serait dans le stylisme ou dans le rock, je sais pas, faudrait leur demander. Et ben justement, ils ont commencé à partager des vidéos de ça. On voit les Deluxe et on voit aussi un jeune public qui danse, qui saute, qui a beaucoup de plaisir. Et ça me fait faire un lien assez drôle, parce que je sais pas si vous vous rappelez, au mois d'août, dans le coin de la mi-août, c'est le 19, en fait le 19 août, il y avait eu une vague de consternation, si je pourrais dire, dans le milieu de la musique, parce qu'il y avait les Deluxe qui avaient été contraints d'annuler leur prestation. C'était au festival de Gatineau, ce festival qui considérait que les Deluxe n'étaient pas un bon match pour l'événement, que les Deluxe n'étaient pas assez grand public. Et bien là, je pense que ce festival de Gatineau doit s'en mordre les lèvres après avoir vu que même les élèves des écoles étaient subjugués devant le grand talent de Anna Frances et de Étienne Barry. Anna Frances Meyer et de Étienne Barry, ce duo qui fait du rock, et vous les avez entendus avec la Turf Fluide et les Deluxe, je les salue. Et on va maintenant y aller avec une nouveauté. Je voulais vous faire entendre ça, vous faire découvrir une artiste qui s'appelle Loni. C'est une artiste française. Mais avant tout ça, je veux faire un peu de rattrapage. Hier, je vous ai parlé de Eman. J'ai entre autres fait jouer la chanson avec son nouveau single, la chanson avec Ken Lo, à propos de cette vie. Je vous ai aussi parlé de sa live session. Il est entouré de 4 musiciens et c'est de toute beauté. Je vous avais dit qu'il retournait aux racines même du hip-hop. C'est ce que je préfère, voir un artiste rap qui s'instrumentalise. Pour moi, le paroxysme du rap, du hip-hop, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui arrive avec des bons textes et qui est entouré de musiciennes et de musiciens. C'est ça qui fait en sorte que on dirait que ça pogne plus, c'est comme une bonne sauce, parce que sinon, avoir juste un artiste qui se produit avec un wind beatmaker derrière, ça n'a pas le même effet, c'est pas la même chose. Donc, je vous gâte, on y va avec une des chansons sur le live session de Eman. Je vous invite à aller écouter le reste de ça, c'est disponible sur la page YouTube de Disque 7e Ciel. Ça s'appelle Eman Montréal 2021, c'est pas plus simple que ça. Et je veux aussi faire shout-out à ce que Eman a dit. Il a salué les quartiers de Québec, donc Saint-Jean, Saint-Sauveur, Saint-Roch, tous ces quartiers. Yeah. One.
Go. Je veux pas qu'on se parle, yeah. J'ai le goût d'écrire des rapides, get high, pas le genre de sentiment qu'on emballe, yeah. Oh, Deb, y'a pas une bouteille sans terre qui envahit la peine, les cépages, jamais deep comme vos pages, d'histoire. On fait comme on dit normal. La magie, nos vibes, hey. C'est comme on lit dans nos âmes, on connaît toutes nos failles, hey. Je fais les grosses îles pour les fêtes, peut-être juste catch un flight, essayer de combiner, a drink bien un bec, yeah. Pas fait
ma journée, t'as fait ma life, yeah. Puis après coup, je t'avoue qu'on a like it. Mon cœur est gros comme un ballon basket. Dans tes yeux, je vois nos enfants bâtir quelque chose d'assez fort pour y entrer. Tourner à nos torts comme des enfants, comme c'est censé. Ensuite retourner à l'état, la tour, puis le baisse comme nos ancêtres. Hey, yo. On fait comme on dit normal, juste imagine nos vibes. Yeah. C'est comme on est dans nos âmes, on connaît toutes nos failles. Hey. Je fais les grosses pour les fêtes, mais peut-être juste catch un flight. Essaye de combiner un drink gun, je veux pas qu'on se parle. Yeah. T'es rapide, get high, yeah. Pas le genre de sentiment qu'on emballe, yeah. Oh, Deb, y'a pas une bouteille, ça t'a qui envahit. La peine, les cépages, jamais deep comme nos pages, d'histoire. On fait comme on dit normal, juste imagine on vibes, yeah. C'est comme on est dans nos âmes, on connaît toutes nos failles. Yeah. Well, it calls it for the fight, me. They just catch un flag. See, don't be me. A drink and a bag, yeah. Wow. Goût d'écrire des rapides, get high.
C'était Eman et sa live session. Je vous invite à aller écouter le reste. C'est une vingtaine de minutes et ça, ce n'était qu'un extrait. Je vous ai parlé de Loni. Ça, c'est une jeune Française qui est une nouvelle pépite folk de la scène francophone. Il y a un nouveau single qui s'appelle Comme la fin du monde qui est sorti dernièrement, exactement le 25 novembre. C'est une nouvelle preuve. C'est réalisé, entre autres, par le Québécois Jesse McCormack, qu'on connaît bien ici à Chiz. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi le connaissent bien. Ben, c'est ce lien qui fait en sorte que j'ai envie de vous faire entendre Comme la fin du monde. C'est une chanson qui est accompagnée d'un magnifique vidéoclip. Ça, ce vidéoclip, ça a été réalisé par Romain Weckler. Et Comme la fin du monde, c'est une... j'ai envie de dire, une carte de visite pour son album qu'on attend pour le 21 janvier 2022, un album qui va s'appeler Ex Voto. Donc voilà pour Loni, je vous laisse avec l'écoute de Comme la fin du monde. De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Loni avec son single Comme la fin du monde. Je vous en ai parlé parce qu'il sort un album le 21 janvier prochain et on va l'attendre, cet album qui s'appelle Ex Voto. Il y a une autre nouvelle dont je voulais vous parler, entre autres le producteur, le multi-instrumentaliste, le compositeur du sud de Londres, celui qui s'appelle Tom Misch, va entamer une tournée en Amérique du Nord en 2022. Cette tournée va commencer le 15 mars prochain à Montréal au MTLUS et va se terminer un peu plus longtemps après, le 4 avril à Oakland en Californie. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on s'intéresse, c'est que le 15 mars à Montréal, au MTLUS, il va y avoir Tom Misch. Tom Misch, c'est, comme je l'ai dit, un producer, pas vraiment un rapper parce qu'il donne vraiment dans la musique alternative, mais il s'associe justement avec des rappeurs, entre autres Gold Link, il y a aussi De La Soul, il y a, entre autres, moi je parle de l'album de 2018 qui s'appelle Geography, il a sorti un album en 2021 qui s'appelle Quarantine Sessions, le nom le dit, c'est des sessions qui ont été enregistrées en quarantaine. Donc si vous ne le connaissez pas, ce producer, eh bien je vous invite à écouter sa musique. Il y a entre autres des succès très populaires comme Disco Yes ou encore comme It Runs Through Me. On va y aller avec une chanson qui a été sortie sur Quarantine Session. Quarantine Session. J'essayais de parler anglais, ça fonctionnait pas. On va y aller avec Cranes in the Sky. C'est la deuxième chanson sur cet album de 8. Donc, au retour, ça avait déjà le temps d'y aller pour la pause publicitaire. On va avoir aussi Nathan Murray qui va venir faire sa chronique cinémaniaque. Et à compter de 17h, il va y avoir Alex Tremblay-Lamarche qui va être avec nous pour nous donner des suggestions de livres pour donner en cadeau pour Noël. Donc, on se dit à tantôt. On va y aller avec l'écoute de Cranes in the Sky. Ensuite, pause publicitaire au retour, chronique cinémaniaque. Avec Nathan Murray, vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses?
Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne.
Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent toutes nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Je suis la star brouillée où on te la couper. Tu peux même venir à pied à mes shows. You t'inquiète, c'est correct, you t'inquiète, frérot.
Et je sais qu'on a fait déjà assez pour vous. Maintenant c'est le temps de penser juste à nous. On va faire ce qui nous plaît, sans s'il vous plaît. Dans ce monde de fou.
Rien à prouver, roule avant de tout brûler. Les rappeurs éprouvettes, je leur rappelle c'est qui la madre. Casse des margoulettes, j'en ai marre des amourettes. Charisme naturel comme à l'époque de la boulette. Du presto pack, je suis passé au big bag. J'ai pas de feedback, c'est ton dernier comeback. Girl gang, tout est possible. Ensemble on est unstoppable. Black queen, tu sais déjà que c'est bankable. Viens bébé, on fait des baby. Qu'on change le monde. J'ai que t'es rebelle et un peu vagabonde. J'ai perdu avant que je te rencontre. Tu sais ensemble on est unstoppable.
Why you wanna waste my time when I got no time? light it up. Me and my girls, light it up, light it up. Me and my riders, light it up, light it up. Wanna party, light it up. We up on the stage, we light it up, light it up. Me and my girls, light it up, light it up. Me and my riders, light it up, light it up. If you lit, you light it up.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Light It Up, c'est une chanson de Mariem avec Sarah May et Sha Frank sur l'album Mario. On y va maintenant pour la chronique cinémaniaque avec Nathan Murray. Salut Nathan.
Salut Félix.
Ça va bien? Est-ce que tu as hâte de pouvoir fêter Noël pour de vrai?
Oui, quoi qu'on se demande de plus en plus si on va pouvoir le fêter pour de vrai. Ouais. Remarque, j'ai une petite famille, donc généralement, même la limite de l'an dernier nous posait pas vraiment de ouais. problème. Mais disons que l'esprit des fêtes est un peu gâché par les lettres grecques qui se promènent un peu partout ouais. Maintenant, ici et ailleurs.
On va se changer les idées. On va parler, entre autres, de nouveautés dont tu as pu aller voir à ton plaisir ou à ton désarroi, si je pourrais dire ainsi. On veut aussi parler des films de Noël en général, mais parlons Spielberg, parlons West Side Story, une autre adaptation. Comment tu trouvais ça?
La deuxième, donc après le classique de 1961, ouais. adapté d'une pièce, d'une comédie musicale avec une musique de Leonard Bernstein et des paroles de Stephen Sondheim, donc comme on en a déjà parlé, qui, elle, avait pris l'affiche sur Broadway en 1957. Donc, c'est près de 50 ans plus tard, exactement, que sort ce film-là, cette reprise, effectivement, menée par l'un des réalisateurs probablement les plus connus ouais. D'Hollywood. L'un des rares, d'ailleurs, qui, par son seul nom, est capable de faire engranger des bénéfices au box-office. Là, ouais. Quand on fait la somme des grandes franchises, par exemple, ou des séries qui ont été les plus lucratives de tous les temps. Si on met les films de Steven Spielberg ensemble, généralement, ça vient jouer dans les plates-bandes d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, et ça jouait dans celle de Marvel, donc ouais. avant que l'univers ne s'étende. Donc, c'est vraiment un gros nom qui adapte justement un classique. Et ça a été bien reçu par la critique assez généralement, sinon des critiques dithyrambiques. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire. L'original, je l'avais écouté une fois il y a longtemps.
Parce que c'est un classique.
Donc, parce que ma mère est une très grande fan de West Side Story. Mais disons que la scène la plus nette dans ma tête, c'est le pastiche qu'en fait Louis de Funès dans Le Gendarme oui. à New York. Donc, c'était. L'histoire originale était relativement loin dans ma tête. Mais c'est vraiment, c'est prenant pour peu qu'on s'abandonne aux codes du genre. Mm-hmm. C'est les codes du drame. C'est très shakespearien. Ben c'est un Roméo et Juliette, d'ailleurs, dans la façon dont l'intrigue se déploie, dans la façon dont les amoureux tombent justement en amour l'un avec l'autre en ouais. à peu près 30 secondes. donc, c'est avec l'intensité aussi, les trahisons qui s'entourent. C'est une adaptation donc dans le New York des années 50-60. De cette histoire de Roméo et Juliette. Cette fois-ci, les deux clans rivaux, là, les Capulet, les Montaigu, sont remplacés par deux gangs de rue, les Sharks, donc des jeunes de descendance européenne qui sont dans la rue, justement, et qui font leur coup bas, qui règnent un peu sur le quartier, mm-hmm. et qui s'opposent à une nouvelle vague d'immigration, donc celle des immigrés portoricains. Okay. Qui forment l'autre bande. Donc la première, c'est les Jets, les Sharks, c'est la seconde, donc mm-hmm. c'est celle de Porto Rico. Et deux personnages de ce clan-là tombent en amour l'un avec l'autre. Ouais. Évidemment, ce sont les personnages principaux, les protagonistes principaux de ce film-là. Donc, on alterne entre les chants. L'histoire est relativement simple. Hein? Quelques numéros dansés, mais il faut avoir en tête que c'est une adaptation qui est un peu vieillotte. C'est voulu okay. en partie, mais on le ressent quand même.
Quand tu parles de, justement, cette danse, tu parlais d'un drame. quand on veut être prêt, disons, pour West Side Story, on peut s'attendre à quoi en termes d'atmosphère? Tu parlais quelque chose de assez shakespearien, Roméo et Juliette.
Ben, disons qu'il y avait quelques reniflements dans la salle. Mm-hmm. Donc, le dernier acte est particulièrement dramatique. Il y a des beaux moments lumineux, donc, dans les rues de New York, quand l'idylle se découvre aussi. Ouais. C'est magnifique. La chanson America par la copine de l'un des chefs de gang est absolument merveilleuse, très, très colorée. En même temps, la chanson, le texte est très, très cynique. Mm-hmm. Même si la chanson est menée tambour battant, donc dans la lumière. Mais plus on avance donc vers l'affrontement final, plus le ton se fait lourd. La fin est très, très mélodramatique. Mm-hmm. Là. Très, très... C'est ça, c'est totalement Roméo et Juliette, donc faut pas... ça finit mal. Ouais. Hein? Faut en avoir conscience. Mais les numéros sont, pour l'essentiel, assez joyeux. Le drame s'installe plus l'histoire passe. Ce qui jure un peu, c'est la comparaison avec les comédies musicales plus récentes. Ouais. Par exemple, celle de Lin-Manuel Miranda, dont on a eu l'occasion de parler. On avait parlé de Tic Tic Boom, qui était quand même magnifiquement réalisé, qui est quelque chose de très, très fort. On peut penser à In the Heights aussi, qui est paru donc sur des gens, encore une fois, des latinos qui grandissent dans un quartier de New York, avec les grandes, grandes chorégraphies qui rassemblent plusieurs dizaines, sinon centaines de figurants. Wow. Quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus cinématographique que l'approche de West Side Story, qui fait toujours un peu, Marc Cassivi le mentionnait dans sa chronique aujourd'hui, qui fait toujours un peu théâtre filmé. Okay. Donc, des moins grands volumes de participants, ouais. Les décors qui sont un peu plus figés. Donc, on sent encore la scène, contrairement à ces autres comédies musicales dont on a l'impression qu'elles assument davantage leurs moyens. Mmh. C'est probablement un choix volontaire de Spielberg, ouais. Donc de jouer sur la nostalgie et de jouer sur le souvenir de cette pièce-là ou du premier film, mais à l'écran, ça se ressent. Malgré le fait que les images sont magnifiques, mm-hmm. les mises en scène, il y a toujours ce petit décalage-là. Puis il faut dire que les danses silencieuses, là, couteau à la main, là, et les parages, disons que sur une scène de théâtre, ça a sans doute un très, très grand impact, ouais. Mais on ressent comme un manque de... C'est beaucoup moins grandiose que les productions récentes auxquelles on a pu être habitué.
Oui, d'accord. Donc, ma question finale, au niveau de la pertinence sur cette adaptation de Spielberg...
Oh, c'est à aller voir. Ouais. Très, très sincèrement, c'est un 3.5, un 3.5 étoiles. Mm-hmm. J'ai vraiment passé un bon moment. Puis il y a de beaux moments. Rita Moreno aussi, qui jouait Maria, donc la protagoniste principale, ouais. Dans le film original, qui est de retour dans un rôle créé spécialement pour elle par Steven Spielberg, qui reprend d'ailleurs une chanson. Il y a beaucoup de jolis clins d'œil. Et puis, la musique est toujours aussi exceptionnel.
On vous invite à aller voir ça, West Side Story. On va enchaîner avec cette chronique cinémaniaque. Tu voulais me parler des films de Noël, les classiques de Noël.
Les classiques de Noël et les moins classiques. Mmh. Probablement que le film de Noël est l'équivalent léger et sans effets spéciaux, ou avec de très mauvais effets spéciaux, du film de Marvel. Hein. Ouais. C'est sempiternellement la même chose, déclinée de plusieurs façons, avec une qualité qui est plus ou moins inégale. On n'a qu'à regarder le catalogue de Netflix. Ouais. J'en ai subi de bon cœur, mais j'en ai subi quand même quelques-uns depuis les dernières semaines. Avec,
pour te mettre un peu dans la magie.
Oui, pour me mettre dans la magie, parce que, disons que ma douce étante adore ce genre de film. Donc, il y a toujours ces histoires de romance, ces, ouais, classiques-là. Ce qu'on peut dire, en tout cas, si j'avais un conseil à donner, c'est les productions récentes sont, sauf exception, moins forte que celle qui porte nos souvenirs d'enfance ou que les classiques de la période. Donc souvent le catalogue de Netflix à ce sujet, ou même celui des autres grands sites de streaming, on a toujours l'impression d'avoir un pastiche d'un original qui était meilleur dans le temps. Mais c'est un peu le principe de Noël. On a toujours l'impression que les vieux Astérix sont meilleurs que les nouveaux films d'animation assinés cadeaux. Donc on est mieux avec un Love Actually, par exemple, qu'un nouveau film de série B ou C
Récemment. J'ai écouté la production de Netflix, un garçon appelé Noël, Boy Called Christmas, et justement c'était cette recette là dont tu parles, avec cette musique énigmatique. On a le côté un peu vieillot, toute cette atmosphère là de Noël qu'on recrée pour avoir une bonne recette d'un film de Noël. C'est réussi, mais je comprends tout à fait qu'est-ce que tu veux dire en disant on a l'impression un peu juste de voir cette répétition-là, ce pastiche-là qu'on fait, de faire une pâle copie de nos classiques. J'ai envie de demander si t'aurais trois classiques de Noël à me nommer. T'as parlé de...
Love Actually,
mais est-ce que t'en aurais d'autres?
J'en aurais d'autres, oui. Souvenir de jeunesse, moi, Souvenir d'enfant, un des films qui me manque et qui passait toujours le style TVA à 18h, là, les Muppets. Monsieur Scrooge, donc le Noël des Muppets, avec Michael Caine dans le rôle de Scrooge. J'écoutais L'homme qui a inventé Noël, qui retrace la vie, comment Charles Dickens a écrit le roman. Avec Christopher Plummer, notamment dans le rôle de Scrooge. Et je me disais, mon Dieu, que j'aurais envie de revoir ce classique-là pour enfants qui passait toujours à la télévision, mais qui a comme disparu des circuits. Donc, c'est tout à fait normal comme le stock s'est reproduit, mais ça ferait partie de ces éléments-là, de ces films de Noël qui me manquent assez vigoureusement, je dirais.
En as-tu eu un autre?
Un autre, lui aussi assez vieux, film d'enfance aussi, parce que c'est souvent ça que nous rappelle Noël, sans aucun lien avec Noël, mais simplement qui était diffusé à cette période-là. On revient avec Spielberg. Capitaine Crochet. Crochet, qui est probablement mon premier héros d'enfance, ce qui peut expliquer bien des choses par la suite. Mais ce film-là aussi, qui était comme une entrée dans un imaginaire particulier, qui est généralement reconnu comme étant l'un des pires de Steven Spielberg, mais que j'affectionne toujours autant, en fait partie. Et il y en aurait même un plus récent, un film de Noël qui pourrait compléter ce top 3-là. On parlait du fait que souvent la magie des nouveaux films n'était pas nécessairement présente, mais il y avait Klaus, très très beau film d'animation, donc qui était paru, un film de Sergio Pablos et Carlos Martinez López, sur un jeune postier danois, si je ne me trompe pas, qui est envoyé en poste dans un village loin au nord, et qui finalement découvre un homme qui habite seul dans les bois et qui fabrique des jouets comme ça dans cette communauté-là, avec des bandes de villageois un peu tout croche qui vivent autour. Mais ça avait une belle récupération de la légende. Visuellement, c'était très, très, très impressionnant. Ouais. Donc, ça fait partie peut-être de ces cadeaux de Noël, justement, qu'on découvre parfois au cinéma. Et ça fait partie de ces films qui réussissent à affirmer, à renouveler le genre.
Tout à fait. Et je pense que tu as dit quelque chose de très pertinent. Les films qu'on associe à Noël, qu'on écoute dans ces temps-là, n'est pas nécessairement un film sur Noël ou un film sur le Père Noël ou sur les cadeaux. On peut penser à Home Alone avec Macaulay Culkin.
Oui, c'est ça. Donc, on a fait récemment une deuxième version, d'ailleurs, qui sans doute ne dépassera jamais la popularité de la première. Donc, c'est pas nécessairement le miracle de la 22e, de la 32e rue qui reste populaire, mais souvent, ce sont les petits films qui ont juste un moment dont c'est un prétexte ou qui tout simplement sont diffusés à cette époque-là.
Exact.
Parce que c'est là, bien évidemment, que dans le temps ancien où la télévision et où les éléments étaient diffusés en direct sans nécessairement possibilité de les revoir par la suite à la demande, c'est là que le public est captif et qu'on peut donc présenter des films qu'il fallait occuper les enfants donc entre pendant qu'on préparait la dinde, ben c'était à ce moment-là qu'on utilisait.
Exact. Et ben je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans le futur. On pourrait peut-être déroger, le conclure avec ça pour ta dernière chronique de l'année, mais qu'est-ce que tu penses justement de ce qui va s'en venir pour la suite? Tu parles d'une génération qui, pas juste une génération, mais tout avant, quand on écoutait la télé et que c'était en direct, pour justement, je pense, entre autres aux Astérix qu'on a l'habitude de voir à chaque fin de semaine dans le mois de décembre. Mais ça, tranquillement, pas vite, ça va disparaître pour être remplacé par quoi, selon toi?
Ça va disparaître. C'est encore d'autres. Ces films qui capitalisent sur la nostalgie-là sont encore... C'est encore avec Astérix, Mission Cléopâtre, qu'année après année, Télé-Québec fait son meilleur score là, de visionnement. Ça a peut-être été concurrencé pendant une saison par 24 heures chrono au tout début de la série, mais c'est vraiment ce qui est fort. Et si les parents l'écoutent souvent, les enfants l'écoutent aussi. En tout cas, moi, mon enregistreur était programmé là, quand le premier est passé samedi le 10, début de Ciné Cadeau, le film s'est enregistré. Mais sinon, on remarque que les catalogues en ligne, les sites de diffusion capitalisent beaucoup aussi sur ces éléments. Sur ces éléments-là, même si c'est dur d'identifier récemment un film de Noël diffusé sur les plateformes qui a autant rassemblé, dont on a autant parlé que ces films que tout le monde écoutait parce que c'était la seule chose qu'il y avait disponible, puis aussi parce que c'est des films particulièrement attachants qui prennent pas la tête, c'est difficile de concurrencer pour que tout le monde le voit en même temps ou apprécie le même parce que le choix est tellement grand finalement que c'est dur d'unir le public autour d'une proposition particulière.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est possible, on l'a vu, il y a des phénomènes, entre autres cette année, ça a été Squid Game, il y a des phénomènes qui sont capables d'être engrangés avec ces plateformes-là, donc peut-être que ça arrivera avec un prochain Noël.
Quand le film est de qualité, mais pas toujours, hein, on parlait de Love Actually tout à l'heure, c'est éminemment mauvais comme film, mais ça procure toujours une petite joie. Donc, on a toujours l'espoir qu'un autre classe, par exemple, survienne, puis qu'une autre proposition de Noël intéressante parvienne à rallier les suffrages. Et puis, souvent, c'est avec les yeux de l'enfant aussi que c'est un film qui passe ou pas la rampe. Hein, quand ils l'ont aimé, généralement, l'année suivante, la demande vient assez rapidement.
Et voilà. Ben, je vais te laisser à ta correction, à ta préparation de cadeaux, au visionnement de ces classiques de Noël, et on se dit à l'année prochaine, mais aussi on va se voir de façon imaginaire avec le spécial de fin d'année. Manquez pas ça. Merci beaucoup Nathan.
Merci
pour ton année.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tirez le balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Respecté
L'idée de rien ou ça doit qui fa bonne. Avons plus besoin de se demander si Kava et John Deere n'auraient plus besoin de mourir. Si Kava et John Deere ne montrent point si compliqué.
De retour à Chéri, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Pour la dernière demi-heure, je suis en compagnie d'Alex Tremblay-Lamarche pour sa chronique habituelle qu'il fait, la chronique Histoire de lire. Salut Alex.
Bonjour Félix.
On se retrouve aujourd'hui en ce mardi. On n'a pas l'habitude de se voir le mardi, mais c'est comme ça qu'on fait ça aujourd'hui. Tu nous parles, comme à l'habitude, de trois ouvrages. On va commencer avec deux qui parlent plus de politique ou de politique. Politique, histoire un peu, ouais. Et on va terminer avec quelque chose de plus qui allie la fantaisie et l'histoire, mais on va commencer avec le droit de vote des femmes.
Oui, ben cette semaine, j'ai eu envie de vous offrir quelques idées de cadeaux de Noël. Mm-hmm. Si, tout comme moi, je devrais peut-être pas le dire en ondes, mais vous n'avez toujours pas acheté vos cadeaux de Noël, ne désespérez pas. Il y a probablement...
Il reste encore une dizaine de jours, là. On est correct.
ça commence à être le temps de le faire.
Pas mal.
Et il reste assurément toute une série de bons ouvrages dans la librairie la plus proche de chez vous, mm-hmm, pour offrir aux êtres qui vous sont chers. Le premier, si vous avez autour de vous quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire politique, à l'histoire des femmes, ou tout simplement aux droits des femmes, mm-hmm, eh bien, ça risque d'intéresser cette personne-là. C'est un ouvrage sur le suffrage féminin au Québec, comme tu le mentionnais. Ça s'appelle « Repenser la nation, l'histoire du suffrage féminin au Québec ». C'est de Denise Baillargeon et publié chez les éditions du Remue-Ménage. Remue-Ménage, peut-être un petit point sur la maison d'édition avant de commencer plus amplement à parler du livre. C'est une excellente maison d'édition qui est spécialisée en histoire des femmes et en études des femmes de manière plus générale. Okay. Donc, toutes les questions féministes, toutes les questions de genre, mm-hmm, vous allez y trouver de quoi qui va vous intéresser assurément. Donc, on a autant des ouvrages sur des femmes chefs d'orchestre que sur le partage des tâches familiales, la question de la charge mentale, mm-hmm, la question des agressions sexuelle, la question de l'histoire des femmes. Donc, c'est assez varié. Et les questions queer aussi. Donc, une maison d'édition qu'on connaît un peu, mais qu'on gagnerait à connaître davantage. Et c'est ce qu'on peut faire, notamment, en se plongeant dans Repenser la nation, l'histoire du suffrage féminin au Québec.
On le sait, bien... J'ai l'impression que c'est connu de plusieurs, mm-hmm, que le droit de vote des femmes est arrivé un peu sur le tard. C'est le cas de le dire au Canada. J'espère pas me tromper. Canada, c'est 1918. Au Québec, c'est 1940. C'est bien ça? Ou l'inverse?
Oui. Ben, en fait, non, c'est exact. 1917, pour être plus 17, précis. Ouais. Parce que, comme l'exprime Denise Baillargeon, pardon, à l'intérieur, on a un gouvernement conservateur à Ottawa qui craint de se faire chasser du pouvoir par les libéraux. Et donc, il va avoir la bonne idée de donner le droit de vote aux mères de soldats, aux femmes de soldats qui ne peuvent pas voter parce qu'ils sont au front. Mm-hmm. Et donc, une clientèle qui est plutôt conservatrice et qui risque de favoriser son élection.
C'est un peu hypocrite comme décision, surtout de se dire qu'on va donner le droit aux mères de ceux qui, ouais, sont allés à la guerre. Mais si les gens n'étaient pas partis en guerre, ils n'auraient pas eu leurs droits.
Oui, puis au final, ben, c'est un vote masculin transféré à une femme.
Mmh, c'est ça.
On ne donne pas le droit de vote aux femmes. On le donne aux... c'est ça.
Aux gens qui
ne
sont pas sur place.
À ces soldats. Et comme ils ne peuvent pas être présents, ben, on dit à la femme, à la mère du soldat en question, eh bien, tu as le droit de voter pour lui. Et c'est en 1918, comme tu le mentionnes, que là, le droit de vote va vraiment être permis à toutes les femmes au Canada. Il va falloir, comme tu le mentionnes, attendre 1940 pour que ce soit le cas au Québec. Mais je ne sais pas si tu le savais, les femmes avaient déjà eu le droit de vote au Québec avant.
On m'avait parlé de cette twist-là un peu, ouais, assez spéciale de l'avoir donné, l'avoir enlevé pour ensuite,
exact,
le redonner.
Exact. C'est ce dont Denise Baillargeon parle dans son premier chapitre. En 1791, acte constitutionnel, on crée le Parlement du Bas-Canada. Il va siéger dans l'ancien palais épiscopal dans la côte de la Montagne. Aujourd'hui, le bâtiment n'existe plus, mais on donne le droit de vote. Bon, c'est un suffrage censitaire, donc c'est seulement les propriétaires qui ont le droit de voter. On ne veut pas que les pauvres votent à l'époque. Et il y a un oubli dans la loi. On ne mentionne pas que ce sont les hommes qui doivent voter. On mentionne tout simplement que ce sont les propriétaires. Et donc, normalement, une femme cesse d'être propriétaire lorsqu'elle se marie. Elle n'est pas propriétaire lorsqu'elle est mineure parce que les biens appartiennent souvent à son père. Mm-hmm. Lorsqu'elle se marie, eh bien, les biens sont transférés à son mari. Et souvent, ben, on ne considérait donc pas que les femmes auraient le droit de vote parce que ce sont les propriétaires. Mais il y a certaines, ce qu'on appelait des vieilles filles à l'époque, ou surtout les veuves, qui, une fois que leur mari est décédé, ben, mm-hmm. prennent possession de l'ensemble du patrimoine familial, ouais. se retrouvent avec des propriétés qui ont une valeur assez grande pour avoir le droit de vote. Et donc, on a certaines femmes qui vont se prévaloir du droit de vote dès le tournant du 19e siècle. Par contre, comme tu le mentionnes, eh bien, on va leur enlever le droit de vote. Et pourquoi est-ce qu'on leur enlève? Et qui est-ce qui leur enlève? Eh bien, il faut se replonger dans le contexte politique des années 1830. À l'époque, on a deux partis qui s'opposent, les Tories, donc plutôt les Britanniques, et les partis canadiens, ceux qui vont plus tard être connus sous le nom des Patriotes. Mm-hmm. Dans un premier temps, les Patriotes sont plutôt sympathiques au droit de vote des femmes et ce sont plutôt les Tories qui disent que, bon, c'est une erreur, on devrait enlever ça. Mais en 1832, il va y avoir une élection particulièrement violente. Il va même avoir des morts chez les Canadiens français. Les troupes britanniques ouvrent le feu sur certains électeurs. Et là, on va vraiment arriver avec une attitude paternaliste. Mm-hmm. Il faut protéger les femmes. Une élection, c'est beaucoup trop dangereux pour la gente féminine. Et donc, c'est dans la perspective de protéger la gente féminine et de garder Madame à la maison sa place naturelle selon l'idéologie des sphères séparées qui est en train de s'imposer au 19e siècle, qu'on va retirer le droit de vote aux femmes.
Vous pouvez pas le voir parce qu'on est à la radio, mais j'ai les yeux écarquillés depuis que tu as commencé parce que c'est assez spécial. Et ben, j'invite les gens à aller lire cet ouvrage « Repenser la nation » pour savoir qui a fait en sorte, comment c'est arrivé ce vote-là et surtout pourquoi est-ce que quelque chose qui semble être naturel, qui semble être normal... n'existait pas avant.
Et je me permets de passer un petit peu sur les prochains chapitres parce que, bon, l'histoire du droit de vote qui a été donné puis enlevé aux femmes est particulièrement étonnante et mm-hmm. intéressante et méconnue. Mais ce n'est que le premier chapitre de l'ouvrage de Denise Baillargeon. Ensuite, un deuxième chapitre qui porte sur la naissance du mouvement pour le suffrage. On a, bon, c'est principalement un mouvement montréalais, bourgeois, anglo-protestant avec quelques Canadiens française qui axe sur la bienveillance maternelle. Si les femmes peuvent voter, ils vont apporter quelque chose justement de plus doux à la politique. Okay. Ils vont corriger justement les erreurs des hommes qui sont plus corrompus, plus alcooliques. Donc, on a vraiment dans le deuxième chapitre ce mouvement-là. Puis, bon, dans le troisième chapitre, 1910-1926, là, on est dans le droit de vote qui est octroyé aux femmes, comme on le mentionnait tout à l'heure en 1917. Puis la lutte qui va être faite dans les années 1920 pour obtenir le droit de vote des femmes au Québec. Il y a un premier projet de loi qui est déposé en 1922, mais malheureusement, il va être battu. Quatrième chapitre, 1926-1940, eh bien, les femmes vont se présenter année après année au Parlement québécois pour tenter d'obtenir le droit de vote. Elles vont toujours se faire dire non. Puis, bon, Duplessis va être relativement sympathique à leur cause. Puis, ben, dès qu'il prend le pouvoir, va être moins sympathique à leur cause. Et finalement, on a un cinquième chapitre qui est depuis 1940 qui nous dit que oui, les femmes ont peut-être eu le droit de vote en 1940, mais il faut attendre 24 ans, 1964, pour qu'une première femme soit élue, Claire Kirkland-Casgrain. Il faut également attendre 1951 pour que les femmes autochtones aient le droit de vote, donc 11 ans après les femmes occidentales, mm-hmm. si je peux m'exprimer ici. Puis, ben, il faut attendre dans les années 1980 pour qu'une première autochtone femme soit élue sur un conseil de bande. Et il faut attendre jusqu'aux années 2010 pour qu'une première femme soit élue à la tête d'un conseil de bande chez les autochtones. Ouais. Donc, on voit que même si en 1940, les Québécoises obtiennent le droit de vote, en fait, les Québécoises, mais pas toutes, comme on vient de le voir. Ouais. Il reste encore bien du travail à faire. Et donc, un petit ouvrage qui se lit bien, qui fera le plaisir de ceux qui s'intéressent aux études de genre, au suffrage féminin, à l'histoire politique et à l'histoire des femmes.
Tout à fait. On va rester en politique avant d'aller à ton troisième ouvrage. On parle de ces personnes qui sont en politique, chose que j'ignorais avant. On misait surtout sur la culture et chose que je suis... On vit dans cette ère où la politique et l'économie cohabitent. Justement, tu m'expliques ça avec cet ouvrage « Entre deux feux » de Jonathan Livernois.
Oui, « Entre deux feux ». Le sous-titre est particulièrement révélateur. « Parlementarisme et lettres au Québec 1763-1936 ». Jonathan Livernois, certains le connaissent. Il est professeur de lettres à l'Université Laval. C'est un spécialiste de l'histoire littéraire, d'histoire intellectuelle. Il est vu comme l'un des héritiers d'Yvan Lamonde, le fondateur de l'histoire intellectuelle au Québec. Et il s'intéresse depuis quand même assez longtemps aux relations entre le livre et la politique, aux politiciens qui étaient auteurs ou qu'est-ce que les politiciens lisaient? Il a notamment travaillé sur la bibliothèque de Duplessis. On a toujours l'impression que Duplessis est un homme ignare, alors que, comme le révèle Jonathan Livernois, c'est loin d'être le cas. Et il nous offre dans ce sympathique ouvrage un aperçu sur la transformation qu'a connue le Québec entre le lendemain de la conquête et la prise de pouvoir de Duplessis. Ce à quoi on est passé d'une époque où on voulait des hommes qui avaient un capital culturel. Par capital culturel, j'entends qu'ils avaient des lettres, qu'ils étaient férus de littérature, qu'ils connaissaient les auteurs anciens, qu'ils étaient capables de citer Molière, Sénèque, de citer tous ces grands auteurs, qu'ils écrivaient, qu'ils publiaient
c'était
des romans.
Surtout par rapport à la littérature, on laissait de côté les autres formes d'art?
Surtout la littérature. Okay. La musique, c'était plus féminin. Okay. On enseignait beaucoup, par exemple, chez les Ursulines, la musique pour les jeunes femmes. Mais vraiment, c'était la littérature qui était l'art le plus mis de l'avant pour les politiciens. Et bon, avoir fait ses belles lettres, avoir fait son collège classique, ben, vous donnait une belle place dans le milieu politique. Et ce que Jonathan Livernois nous révèle, c'est que tranquillement, on va passer d'un paradigme, de ce paradigme à un nouveau paradigme qui est celui que dorénavant, c'est plutôt un capital financier plutôt qu'un capital culturel qui va primer. Ça va dorénavant être des hommes qui siègent plus sur des conseils d'administration qu'on va favoriser, des hommes qui sont capables de parler au peuple plutôt que de parler en citant Racine et Sénèque. Ça va être des hommes qui, bon, proposent des mesures financières, ont des contacts dans le domaine des affaires. Et donc, tranquillement, cette figure du premier ministre littéraire va s'éroder au profit d'un premier ministre proche du milieu des affaires. Si je te disais qu'il y a plusieurs des premiers ministres du 19e siècle qui ont écrit des romans, qui ont écrit des pièces de théâtre, qui ont même qu'un d'eux a même écrit un opéra. Wow. Ça tranche avec on en pensera
François
ce qu'on
Legault,
en veut.
Transat,
exact. Pauline Marois, Jean Charest, Bernard Landry. Les derniers premiers ministres qu'on a eu au Québec sont davantage issus de la sphère politique, du milieu des affaires, du milieu communautaire, du droit. Alors qu'au 19e siècle, un homme comme Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, il a une collection de livres absolument impressionnante qu'il va d'ailleurs laisser à l'Assemblée nationale. Il va engager des écrivains comme fonctionnaires pour tranquillement constituer la fonction publique québécoise. Même chose pour un Boucher de Boucherville, qui est un premier ministre plus très, très connu aujourd'hui, qui a écrit un roman. Et à mesure que le temps passe, eh bien, ce paradigme change. Félix-Gabriel Marchand, qui a écrit du théâtre, un opéra, de la poésie, qui était également journaliste, lorsqu'il prend le pouvoir en 1897 et qu'il fait fait plein de jeux de mots, qu'il est très, très littéraire, eh bien, il fait figure d'anachronisme. Les gens se demandent, il semble qu'il incarne une autre époque. Aujourd'hui, on est plus proche du milieu des affaires, ouais. On est plus proche des Américains, des gens qui ont un pied dans le milieu des ressources naturelles pour être capable de tirer des filons ici et là pour développer les barrages hydroélectriques. Donc, c'est vraiment ce paradigme-là dont on parle. On montre comment le milieu politique a longtemps été très, très proche des journaux, des imprimeurs, des éditeurs. C'était presque un passage obligé. Si tu voulais devenir politicien, il fallait que tu aies été journaliste à une certaine époque. Honoré Beaugrand, le père de la chasse-galerie, qui va être maire de Montréal, il a écrit le conte de la chasse-galerie. Il a également été journaliste dans plusieurs journaux, tout en étant maire de Montréal. Louis Fréchette, le célèbre auteur qui a une maison patrimoniale à Lévis qu'on peut visiter, il est surtout connu comme auteur aujourd'hui, mais il avait également fait de la politique auprès du Parti libéral au 19e siècle. Ouais. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui montre comment l'espace public, le milieu des lettres, est né parallèlement au milieu politique et comment les deux se sont entremêlés jusqu'à la fin du 19e siècle, puis comment au début du 20e, tranquillement, il y a quelque chose qui change et qu'on se dirige de plus en plus vers une politique qui est gérée par le milieu des affaires et où avoir une bonne culture générale, être capable d'écrire est moins bien valorisé.
Tout à fait. Et on parle peut-être de ça dans cet ouvrage-là. T'en as parlé, entre autres, du fait qu'on parle au peuple et on fait référence, entre autres, au populisme, qui est chose qu'on trouve attirant. Ouais. T'as parlé, entre autres, de notre influence qu'on a... qu'on prend des Américains, ça fait partie aussi de tout ça. Donc, c'était pour l'ouvrage « Entre deux feux, parlementarisme et lettres au Québec » de 1763 à 1936. On va enchaîner avec un livre qui est dans un tout autre registre. On parle d'un livre qui aurait inspiré Game of Thrones. C'est « Le chevalier dans l'histoire » de Frances Guise.
C'est une Anglaise.
Okay.
Et ce n'est pas le livre qui a directement inspiré Game of Thrones, mais il faut se remettre dans le contexte. Frances Guise, c'est une médiéviste qui est malheureusement aujourd'hui décédée, mais qui a énormément travaillé à rendre le Moyen-Âge plus accessible. Elle a écrit sur le village à l'époque médiévale, sur la ville à l'époque médiévale, sur la vie dans les châteaux à l'époque médiévale et également sur les chevaliers à l'époque médiévale, le sujet de l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui. Et c'est cette série de livres qu'elle a faite avec son mari qui est maintenant traduite dans la maison d'édition Les Belles Lettres, qui a inspiré George R.R. Martin pour créer cet univers qu'on retrouve dans Game of Thrones, qui est fortement inspiré des intrigues politiques médiévales. Et donc, dans cet ouvrage, on garde le même ton qui a fait le succès des précédents. C'est quelque chose qui est accessible. Vous ne connaissez pas grand-chose au Moyen-Âge, mais vous avez regardé Game of Thrones avec intérêt. Vous avez regardé des séries comme, par exemple, Le Chevalier Vert qui est sorti cet automne au cinéma.
Ouais.
Et vous êtes intrigué par la chevalerie. Eh bien, c'est un ouvrage qui est accessible. On n'est pas dans les débats historiographiques. On n'est pas dans quelque chose de très, très pointu. On commence en parlant d'où est originaire la chevalerie. Puis on voit certains chevaliers célèbres, le mode de vie des chevaliers, l'importance des tournois, comment les croisades sont venues marquer le Moyen-Âge. Puis on termine en parlant du déclin de la chevalerie. Donc c'est vraiment un ouvrage qui permet d'en apprendre plus sur les chevaliers qui va faire le bonheur de votre cousin qui trippe sur les séries médiévales fantastiques ou qui aime beaucoup le Moyen-Âge.
J'ai envie de conclure cette chronique avec un peu surfer sur ce qu'est-ce que tu as dit par rapport à la chevalerie, de, elle a rendu ça accessible. Ouais. Quand j'ai fait mon cégep en histoire, on m'a beaucoup rappelé justement que le Moyen-Âge, c'est pas nécessairement les grandes histoires de chevaliers. C'est, on a aussi surnommé cette, ben, une partie de cette époque-là, la Grande Noirceur. Donc, où toi, tu situerais le vrai Moyen-Âge, en gros guillemets, entre le côté vraiment, j'ai envie de dire, où tout était sale, on se lavait pas, c'était gris, on dirait qu'il pleuvait tout le temps, ou, tu sais, avec l'autre extrême que on voit les chevaliers dans la richesse, on voit les tables rondes, on voit les beaux mm-hmm. tissus. Où te situerais-tu dans cette...
La réponse est souvent entre les deux.
C'est ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les époques sont souvent définies par ceux qui les suivent.
Ouais.
Et donc, lorsque les gens qui arrivent à la Renaissance connaissent une effervescence intellectuelle, eh bien, ils vont se nommer eux-mêmes la Renaissance et ils vont dire la période juste avant, c'est les Dark Ages ouais. en anglais, c'est le Moyen Âge, un âge moyen, c'est un âge sombre, et va commencer vraiment cette légende noire. Au même titre qu'au Québec, on a des intellectuels qui ont été un petit peu opprimés dans les années 1940-1950 par un gouvernement assez nationaliste qui était proche des gens, mais qui était plus ou moins pour les intellectuels. Et ces intellectuels-là, lorsqu'ils prennent le pouvoir aux côtés du Parti libéral dans les années 1960, eh bien, ils vont dire que l'époque d'avant, c'était la grande noirceur. Duplessis, et maintenant, on est dans la Révolution tranquille. Or, les historiens ont démontré que la Grande Noirceur n'était pas si noire que ça, la Révolution tranquille n'est pas si lumineuse que ça, et il faut nuancer tout ça. Même chose du côté du Moyen-Âge, et c'est un des traits, un des points forts de Francis Guise, c'est que, on voit le chevalier dans toute sa nuance. Dans certains cas, ce sont des hommes qui font du pillage, qui s'imposent par la force, mais à un moment donné, l'Église va venir mettre un petit peu de ménage là-dedans en disant, il y a une dimension morale qu'il faut qu'il s'impose. La paix de Dieu ou la trêve de Dieu, comme on l'a appelé à l'époque, a amené à mettre des sanctions contre les chevaliers qui foutaient un peu le bordel puis faisaient n'importe quoi, et amener les chevaliers à se mettre au service de Dieu pour gagner leur salut, d'où les croisades, d'où éventuellement les armées saintes, plusieurs guerres. Et donc, également, effectivement, un point de vue sur le Moyen-Âge dans l'ouvrage de Francis Guise qui nous permet de voir que tout n'est pas noir, tout n'est pas lumineux,
exact.
Mais que le Moyen-Âge est une époque qui est complexe, fascinante et accessible quand on prend le temps de la faire découvrir avec des mots simples en contextualisant le tout.
Tout à fait. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le Moyen-Âge, la chevalerie, je vous invite à aller vous procurer l'œuvre Le Chevalier dans l'histoire, excusez-moi, Le Chevalier dans l'histoire de Francis Guise. Et voilà, ça c'était le troisième ouvrage dont tu m'as parlé aujourd'hui. On a commencé cette chronique avec Repenser la nation, c'est de Denise Baillargeon. Et pour rester un peu dans la politique, tu m'as parlé de Entre deux feux, parlementarisme et lettres au Québec de 1763 à 1936 de Jonathan Livernois. C'est ce qui conclut ta chronique Histoire de lire. Et c'est la dernière de l'année. Il va y avoir évidemment le spécial dont je vous invite à aller écouter le 24, le 27 et le 31. Mais nous, on va se dire à l'année prochaine et bonne lecture.
Bonne lecture.
On va maintenant pouvoir conclure cette émission de Chérie J'arrive en ce 14 décembre. Alors, en cette émission du mardi 14 décembre, de quoi est-ce que je vous ai parlé? J'ai commencé avec des nouvelles en rafale. Je vous ai parlé de Igloo Fest qui débarque à Québec en mars prochain. C'est le 16, le 18 et le 19 mars. Il va y avoir, entre autres, Kaytranada. Donc, je vous invite à aller prendre vos laissez-passer dès maintenant. Je vous ai parlé de plusieurs trucs, entre autres, le festif qui organise le festif à l'école. Ça, c'est des artistes qui vont dans des écoles à travers plusieurs régions du Québec. J'ai passé deux chroniques aujourd'hui. J'ai commencé à 16h30 avec Nathan Murray et sa chronique Cinémaniac qui m'a parlé de West Side Story, le dernier film, l'adaptation de Spielberg. Il m'a parlé aussi des classiques de Noël et j'ai conclu cette émission-là. J'ai terminé la dernière demi-heure avec Alex Tremblay-Lamarche qui m'a, comme à l'habitude, parlé de trois ouvrages et l'a poursuivi sous l'angle d'idées cadeaux. Donc, je vous invite à préparer ça parce que c'est déjà le 14 décembre. Donc, on va se laisser pour aller préparer nos cadeaux, préparer nos festivités. On se dit à demain. On va se retrouver à 16h sur les ondes de Chiz 94.3. Mais... ben, je vous annonce que c'est la dernière en studio, en personne de 2021. Pour le reste de la semaine, ce sera des émissions cannées, comme on appelle. On se dit donc, ben, c'est déjà le temps de se dire à l'année prochaine, mais je vous invite à aller suivre la page Facebook de Chérie J'arrive pour ne rien manquer. Je vais vous donner les dates, les heures pour le spécial de fin d'année. Donc, ben, on se dit à demain pour l'émission qui va continuer. Prenez soin de vous. Ciao.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but!
Vendredi 17 décembre, 19h, vos remparts sont en visite au Colisée Desjardins pour y affronter les Tigres de Victoriaville. Ne manquez pas l'avant-match en compagnie de Rick Loutier. Rempart contre Tigre, ce vendredi 19h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Tom 2, Alchemist beat, classic shit only. My name is tatted on titties and asses, cause I got a cult following like Indianapolis. My passion took me past the pessimist, cash benefits, first class Emirates, impact megalith, set in stone, went in Rome, I'ma do what Russ does. Got a custom to skipping customs, what's up? Pay the same, fuck Russ, women tryna fuck Russ. Y'all streams ain't really bees, I don't trust Buzz. I'm your dream girl screensaver, kill the pussy cremator. You can't believe it, yeah, T-Pain. I live music, think big, yeah, C major. Cross the line, you in extreme danger. I ain't playing peacemaker. My appearance makes me seem safer. Not for real though, I've accepted apologies that I'm still old. Lot of perks since I popped, no pills though. Ran up another mill, hold gracefully. Things don't fall apart, they form spacefully. Getting so much money, I ain't chasing it, it's chasing me. It's just one thing that's got me tripping like Amory. Treat me like I'm regular, but fuck me like I'm famous, please. Someone send a sedative, pressure of being present.